On m'a demandé de vous préciser en préalable que vous pouvez bénéficier de boîtiers de traduction qui sont à votre disposition sur le côté droit de la salle pour vous. En attendant, nous sommes ici pour parler d'Isaac Asimov et plus précisément de morale humaine et loi robotique à travers l'œuvre d'Isaac Asimov. Nous avons un plateau assez riche et varié. Donc, une auteure de science-fiction, Madame Kress, un éditeur érudit, Monsieur Klein, et enfin Monsieur Ganassia, un scientifique multifacette et multifonction. Juste pour repositionner un petit peu les choses et vous donner quelques petits rappels, donc Asimov, né en 1920, on pense, lui-même n'était pas trop sûr, mort en tout cas, et là nous en sommes sûrs, en avril 92 à New York. Donc écrivain américain, naturalisé américain, et un des maîtres de la science-fiction qui a pu toucher dans son œuvre aussi bien au roman policier, au roman jeunesse, au roman science-fiction, et surtout une œuvre de vulgarisation scientifique assez considérable. Il est resté avec nous à travers son histoire des robots, et notamment ces fameuses trois lois de la robotique qui définissent le fonctionnement d'un robot. Avant de revenir sur ces lois, peut-être vous laisser la parole si vous vouliez évoquer votre découverte de l'œuvre d'Asimov. Madame Kress, peut-être.
I was very young when I discovered Isaac Asimov, I think 15 or so. And I read him omnivorously, anything I could get my hands on. But I have to say, and I hope this isn't going to immediately brand me as a pariah, he's not among my favorite science fiction writers. Asimov, admittedly, he himself said he was not very interested in characterization. He was interested in ideas, but he was not much interested in creating complex human beings in his fiction. And since that is what I like to read, he has never been one of my very favorite authors. But I think as far as ideas went, including the ideas of what robots should do and should not do, that he was indeed a master.
Monsieur Klein.
Je suis assez d'accord avec Madame Kress. Isaac Asimov n'est pas un de mes auteurs préférés de science-fiction, bien que je l'ai découvert très jeune aussi, avec le premier volume de Fondation d'ailleurs. Ce que je préfère, alors par contre, j'ai été un très grand admirateur de son œuvre dans le domaine de l'information scientifique. Son livre sur le neutrino, par exemple, sujet sur lequel on ne savait à peu près rien, est un véritable chef-d'œuvre. On peut encore le lire aujourd'hui avec profit. Son livre sur le cerveau, sujet sur lequel on ne sait toujours à peu près rien, est également très remarquable. Comme écrivain de science-fiction, j'ai toujours été moins convaincu, mais ce qui m'a le mieux plu dans l'ensemble, c'est bien ces histoires de robots, enfin en tout cas les premières, pas les suites interminables qui essayaient de relier robots, Trantor et Dieu sait quoi.
Alors moi je suis spécialiste d'intelligence artificielle, et en même temps, j'ai une formation de philosophe. Je me suis intéressé aux questions d'éthique des machines. Et bien sûr, tout naturellement, je suis tombé sur une partie de l'œuvre d'Asimov, celle dont nous parlons aujourd'hui, sur les robots et sur les trois lois de la robotique qui sont, en tant que telles, extrêmement intéressantes parce qu'elles posent des questions qui sont celles que se posent aujourd'hui les spécialistes de robotique et d'intelligence artificielle. Éventuellement, je pourrais revenir, bien sûr, sur le sujet, parce que je suppose que ça fera l'objet de cette table ronde.
Alors, bon, on parlait des lois, il peut être intéressant de les rappeler. Alors, j'ai mes notes. Donc, première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc là, dès ces premiers textes, enfin les lois apparaissent telles quelles, dès ces toutes premières nouvelles, il apporte quelque chose de nouveau sur le robot qui, avant lui, était vu sur le modèle de Frankenstein. C'était la créature qui était le robot qui était agressif ou qui était néfaste. Peut-être qu'avec Asimov,
Frankenstein n'est pas un robot. Frankenstein n'est pas un robot.
Ouais, j'ai dit sur le modèle.
Frankenstein est une chimère humaine, si on peut dire. En revanche, des robots, y a ceux de Čapek, c'est-à-dire qui sont des mécaniques susceptibles de remplacer et peut-être de ressembler à l'humain. Parce que, puisque je tiens le micro, je ne le lâcherai pas, on me connaît. Sur la base des trois lois de la robotique, j'ai écrit il y a un certain temps une très courte histoire qui a un peu circulé. Donc on fabrique un robot, on lui inculque les trois lois de la robotique d'Asimov, moindre des précautions, on éveille le robot et à ce moment-là il pose la question: qu'est-ce qu'un être humain? Il n'a jamais reçu de réponse.
Mais justement, pour parler des robots selon Asimov, dans ses textes, il ne cesse pas de faire des variations sur ses lois, de chercher à les pousser dans leur retranchement et d'essayer de les discuter. Est-ce que le concept de la loi est nécessaire pour écrire le texte? Ou est-ce que pour Asimov, ça a été peut-être simplement un prétexte? Est-ce qu'il avait vraiment tellement envie, est-ce qu'il utilisait tellement ses lois, ou est-ce qu'il les modifiait un petit peu?
I think he did use them, and what he was doing was simply a subset, a smaller version of what all fiction does. All of his robot stories bring the laws into conflict with each other. For instance, supposing a robot is given an order and it must obey it according to the second law, but that might indirectly endanger a different human being than gave the order, which contradicts the first law. So there is a conflict between the two laws, and that's where he got his fiction out of. And in a larger sense, all fiction is about conflicts between two values. To take a simple example, supposing you have a young man at a school where there is an honor code, and you must not cheat on exams, and you must turn in, other people who cheat, you must tell the authorities. That is one value, the honor code. Another value is friendship. You find out that your best friend is cheating. You then have a conflict between the value of friendship and the value of the honor code, and out of that can come fiction. And what Asimov was doing was simply taking two values in two different laws, or sometimes in the same law, because he was very inventive about this, and bringing them into conflict with each other. It is merely a subset of what all fiction does, but in very specific situations.
Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que avec ces trois lois d'Asimov, c'est l'ordre dans lequel les lois sont données et les contradictions que l'on rencontre. Alors tout d'abord, ce sont des lois éthiques. L'éthique, ce n'est pas simplement des lois, c'est nécessairement des conflits, parce que s'il y avait simplement à appliquer un certain nombre de règles et de maximes et qu'elles n'entraient pas en contradiction, il n'y aurait pas vraiment d'éthique. Ces lois, donc, sont en conflit. Et ensuite, le robot se trouve confronté face à ces lois à un certain nombre de difficultés, ou les hommes se trouvent confrontés face à ces lois à un certain nombre de difficultés, et je crois que c'est ce qui est extrêmement intéressant. Alors c'est aujourd'hui très actuel pour deux raisons. D'une part, parce que les robots se sont développés considérablement et qu'on se pose aujourd'hui la question des régulations éthiques que l'on peut donner aux robots. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure et quelques exemples des difficultés qu'on rencontre qui sont tout à fait semblables à celles qu'évoque Asimov dans ses romans ou dans ses nouvelles. Et puis deuxième chose, je crois, qui est extrêmement intéressante, c'est que l'intelligence artificielle elle-même, qui a essayé d'utiliser des formalismes logiques pour représenter les raisonnements, s'est trouvée confrontée à la possibilité de contradiction entre les différentes règles. Et donc pour cela, on a essayé d'avoir des formalismes nouveaux qui permettaient de surpasser ces contradictions. Alors c'est ce qui a été fait avec ce qu'on appelle les logiques non monotones et tout un tas de formalismes depuis le début des années 80, hein, et entre autres avec quelqu'un qui a été le père de l'intelligence artificielle, qui est mort il y a à peu près un an, un tout petit peu plus d'un an, qui s'appelait John McCarthy, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il se trouve d'ailleurs que John McCarthy a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'était au départ un mathématicien, il est l'homme qui a inventé le terme d'intelligence artificielle, il a organisé la première réunion qui a eu lieu sur ce sujet, il a développé tout un tas de techniques, entre autres c'est lui qui s'est beaucoup intéressé au jeu d'échecs sur ordinateur, et ce qu'il a fait de très amusant, à la fin de sa vie, il a écrit une petite nouvelle de science-fiction qui s'appelle The Robot and the Baby, où justement il y a des questions de règles éthiques et de contradictions qui interviennent entre ces règles éthiques. Mais je voudrais juste revenir sur les conflits qui peuvent exister. Il y a un conflit classique, par exemple, en éthique, qui est celui du mensonge. Normalement, une règle d'éthique générale nous dit que nous ne devons pas mentir. Et bien sûr, il existe des situations où le fait de dire la vérité peut engager la vie d'un certain nombre de gens. Il y a en particulier un philosophe français qui s'appelle Benjamin Constant qui a écrit justement qu'il y a des moments où il fallait avoir des règles par défaut, hein, qui permettent de mentir dans certaines situations. On ne dit la vérité qu'à la personne qui mérite la vérité, et sinon on ne dit pas la vérité. Il y a eu tout un tas de débats philosophiques, hein, entre autres avec le grand philosophe Emmanuel Kant, hein, et puis ensuite avec d'autres philosophes. Sartre d'ailleurs reprend en partie ce type d'argument. Alors dernier point qui me semble très très intéressant sur le développement actuel des robots, vous savez donc il y a des applications de la robotique dans tout un tas de domaines, donc ça peut être la robotique manufacturielle dans les usines, hein, ce qui est fidèle à l'étymologie du mot robot. Il y a une robotique dans le domaine médical par exemple, il y a la robotique à la maison, hein, la domotique. Et il y a aussi la robotique spatiale, ou plus généralement la robotique en milieu hostile. On se souvient par exemple qu'après les accidents de centrales nucléaires au Japon, on a essayé d'envoyer un certain nombre de robots pour réparer les choses. Et puis, il y a une robotique qui est particulièrement inquiétante et qui se développe de plus en plus aux États-Unis avec les drones, c'est la robotique militaire. Et alors, dans le cadre de la robotique militaire, il y a un débat qui est extrêmement intéressant entre des gens, en particulier une personnalité très connue aux États-Unis qui s'appelle Ron Arkin, qui explique que les robots militaires vont être plus éthiques que les soldats parce qu'ils auront un certain nombre de règles à leur disposition, qu'ils feront une guerre propre, qu'ils conserveront leur sang-froid, qu'ils n'auront pas de passion. Et puis, d'autres gens qui disent que c'est totalement absurde. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le système de Ron Arkin fonctionne avec ce qu'il appelle un superviseur éthique, qui ressemble d'une certaine façon aux règles éthiques que propose d'introduire Asimov. Et il se heurte aux mêmes contradictions, mais peut-être que je vais laisser la parole à d'autres panélistes pour dire ensuite quelles sont ces contradictions qui, moi, je trouve sont tout à fait intéressantes parce qu'elles sont présentes déjà dans les romans d'Isaac Asimov.
C'était exactement là où je veux en arriver, justement, de ce réservoir d'histoire qu'offrent les lois repose sur les problèmes qu'elles posent. Et pour reprendre le terme, en quoi elles sont contradictoires? Il y avait l'évocation de qu'est-ce que c'est qu'un être humain?
Les nouvelles d'Asimov qui sont dérivées des lois, en fait, à bien des égards, sont des nouvelles policières. Parce qu'elles explorent leur structure même, leur mode narratif et celui d'un texte de roman policier. Parce qu'elles explorent les contradictions entre les lois et peut-être au moins autant les trous qui sont laissés béants entre les lois. En fait, dans chacune de ces nouvelles, une loi se trouve contournée, même le robot n'y obéit pas. Et tout le problème de Suzanne Calvin, la robot-psychologue, c'est de comprendre ce qui s'est réellement passé, pourquoi l'interdiction n'a pas fonctionné dans ce cas précis. Donc c'est un point de vue de juriste, hein, en fait, que développe Asimov, à mes yeux, plutôt qu'autre chose. Ce que j'aimerais, c'est soumettre un des robots d'Asimov, si on reparlera éventuellement plus tard de l'intelligence artificielle, et je récuse le terme d'éthique appliqué non pas aux humains qui se servent de machines, mais à des machines elles-mêmes, mais ça c'est un autre problème. Mais il y a un test qu'on utilise pour les humains en psychologie et qui est le suivant. Un wagonnet descend le long d'une voie ferrée à toute berzingue, enfin on ne peut pas le freiner ni rien, et si on le laisse aller, il va tuer 6 personnes qui ne sont pas prévenues et qui se trouvent sur la voie. Un observateur peut actionner un aiguillage qui va détourner le wagonnet, mais il va le détourner sur une autre voie où une personne sera tuée. Que fait l'humain et que ferait le robot d'Asimov ? Et là, c'est intéressant parce que dans le cas des humains, bien, on ne le fait pas en réalité, malheureusement. Dans le cas des humains, il y a des choix qui sont opérés et qui renseignent sur des structures de personnalité assez différentes. La plupart des gens ne font rien. La plupart des gens ne font rien parce qu'ils ne veulent pas condamner un seul contre 6. Un certain nombre de gens qu'on aurait tendance, mais faites très attention aux mots parce que je ne devrais pas l'employer dans cette exception, à classer parmi les pervers rationnels, actionne l'aiguillage, préfère tuer un humain pour en sauver 6. Alors, il y a toutes sortes de modalités de ce choix, mais c'est intéressant en soi. Mais que ferait un robot ? Rationnellement, il doit en sacrifier un pour en sauver 6.
Oui, là on se trouve confronté à des dilemmes éthiques tout à fait classiques qui ont été étudiés par la philosophie. Et effectivement, ce qui est intéressant là, c'est de se demander quels sont les fondements de l'éthique qui justifieraient telle ou telle action. Et puis, il y a une deuxième question qui est une question de psychologie, c'est-à-dire comment les hommes agiraient, indépendamment d'ailleurs de ces fondements. Est-ce qu'il faut avoir une éthique conséquentialiste, une éthique déontique, etc. Mais lorsque je parlais des contradictions que l'on rencontre, en particulier dans le domaine militaire, il y en a deux, je crois, qui sont très intéressantes parce qu'elles montrent bien les difficultés que l'on a à fabriquer une machine qui puisse être dite éthique, le terme éthique, bien sûr, posant un certain nombre de problèmes, je vous l'accorde tout à fait, mais nous pourrions peut-être revenir d'ailleurs sur cette question-là. Mais en tout cas, et d'ailleurs, bon, est-ce que ces lois sont des lois morales ? Ça, c'est une bonne question sur laquelle nous pourrions revenir après. Mais il y a quand même deux choses qui sont très intéressantes dans la robotique militaire, dans ce que dit Ron Arkin, c'est qu'il va essayer d'utiliser ce qu'il appelle les lois de la guerre. Et les lois de la guerre, il dit qu'il y a deux grands principes qui sont le principe de distinction, puisque normalement un soldat doit attaquer d'abord des soldats ennemis avant d'attaquer des civils, et puis un principe de proportionnalité. Or, si nous nous en tenons rien qu'au principe de distinction, il est extrêmement difficile de reconnaître dans un être humain qui est en face de soi quelqu'un qui serait un civil ou qui serait un militaire. Et de même, d'ailleurs, on voit chez Asimov le problème qui se pose, c'est que pour appliquer la deuxième et la première loi de la robotique, il faut être capable de distinguer un humain d'un robot. C'est-à-dire pour pouvoir porter assistance à un robot, ce qui est la première loi, et pour obéir à des ordres humains, il faut distinguer l'un de l'autre. Or, c'est extrêmement difficile, et d'ailleurs lui-même, à certains moments, montre que la question est extrêmement, extrêmement difficile.
Vous parlez de la guerre. Je voudrais bien savoir qui ici a fait vraiment une guerre. Vous ? Non, Madame Kass, certainement pas. Moi, oui, 2 ans, Algérie. Et c'est là où on voit, et encore, je n'ai pas vraiment fait une guerre de terrain, mais plutôt une guerre de renseignement, disons. Mais c'est là où on voit le problème. Vous avez une patrouille. Ça, j'en ai dirigé, j'en ai commandé. J'ai jamais eu le corps très important, mais j'avais commandé. Vous arrivez devant une meshta, une maison, enfin, etc. Bon, vous avez toutes les chances de penser qu'elle est piégée. Vous faites des sommations, etc. Bon, personne ne répond. Si vous envoyez quelqu'un à l'intérieur, ou bien il doit se faire allumer, ou bien si elle est piégée, il va sauter. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez à l'intérieur une grenade offensive. Et puis vous rentrez et vous trouvez trois gamins morts. Là, je ne vois pas en quoi la machine, sauf évidemment si elle a des moyens de détection, il y a des humains, mais il y a des humains, c'est qui, c'est quoi, sont armés, sont pas armés, etc. Bon, la guerre véritable, c'est ça. Et je dois dire que le meilleur film de guerre que j'ai jamais vu, c'est celui de Kubrick, qui est complètement fait en décor. Comment il s'appelle déjà ?
Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket, qui est complètement fait en décor. Moi, je ne vais pas voir les films de guerre par principe, j'ai horreur de ça, bon, j'en ai eu mon content. Mais Full Metal Jacket, j'ai tenu à le voir parce que j'adore Kubrick. Et encore une fois, c'est fait complètement en décor, donc c'est d'une artificialité totale. Et c'est la seule fois où j'ai vu une guerre qui ressemblait à des choses que j'ai connues. Ah, la machine, je vois pas bien. C'est celui qui la dirige qui va prendre les décisions ou celui qui l'a programmé, même si ça se déroule très longtemps après. Mais je vois pas bien comment elle échappera à cette question fondamentale. J'envoie quelqu'un qui risque de se faire tuer ou rien du tout, on ne sait pas. Ou je nettoie le terrain d'abord, je prends les précautions et je risque de tuer quelqu'un ou rien du tout. 9 fois sur 10, il n'y a jamais personne et puis c'est terminé. Une grenade offensive, ce n'est pas très méchant, c'est un gros pétard. Mais dans une pièce fermée, ça fait des dégâts.
When you're talking about ethical decisions, as you just made, when you throw in a grenade into a house or you send in a drone over the battlefield, it's still a human being making those decisions. What Asimov was writing about raises a troubling question, and you touched on it when you said, what is a human being? Because his robots make those decisions themselves. They're able to make the ethical decisions guided by those laws. But there's a contradiction right there, because if they are making the ethical decisions guided by those laws, they're really not robots anymore. They're something much closer to human beings. And Asimov himself acknowledged this in a later story he wrote, which I think are better than the robotic stories, called In English, Bicentennial Man. And it is about a robot who wants to be human or is human. The reader gets to decide which of these is actually true. But once you're talking about robots that are not programmed to do something, but are able to decide what they're supposed to do, even if they're guided by 3 so-called ethic laws, well, so are human beings guided by so-called ethic laws when we make our decisions. They're not really robots anymore. They've moved beyond robots into some other shadowy place between flesh and blood human beings and actual machines. And we don't have a good name for that place or a good way to deal with it yet. I don't know if we'll ever get there. The artificial intelligence people are the ones to tell us that. But if we do ever get there, we're going to have to radically rethink what kind of autonomy we give these creatures and how responsible we hold them versus their makers or programmers.
Oui, je vous remercie d'introduire cette question-là. Je suis bien d'accord avec vous, le roman Le Bicentenaire, hein, où l'homme est très très intéressant parce qu'il pose la question du déterminisme, hein, puisque au départ justement, il s'agit d'un robot féminin justement qui va avoir de l'intuition, et puis ensuite celui de la liberté et celui de l'autonomie, parce qu'avec les robots, nous avons des artefacts qui ont une autonomie de mouvement. Mais effectivement, éventuellement, ils peuvent avoir une autonomie d'action, mais ils ont un certain nombre de règles. Or, lorsqu'on parle d'éthique, on sous-entend qu'il y a non seulement une autonomie de mouvement et d'action, mais qu'il y a quelque chose de plus, qui est une autonomie de la volonté. C'est-à-dire qu'il faut la personne qui soit libre soit capable de se donner elle-même ses propres règles. Ça veut dire qu'il n'y a d'abord pas de contradiction entre les règles et la liberté. C'est pas parce qu'il y a des règles qu'il n'y a pas de liberté. Bien au contraire, ce que disent les philosophes, c'est que une liberté sans règles n'est pas une vraie liberté. C'est-à-dire qu'on est soumis à ses instincts immédiats. La vraie liberté, c'est de pouvoir être fidèle aux règles que l'on s'est données. Et la deuxième chose, c'est bien sûr d'avoir cette autonomie de la volonté, c'est-à-dire de se fixer soi-même ses règles. Alors, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle, dans ce roman d'Asimov, c'est qu'il pose toutes ces questions et il montre toutes les contradictions. Il pose la question de la liberté. Et en même temps, bien sûr, ces règles sont toujours présentes, puisque, elles, bien sûr, elles sont données au robot de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas le robot qui se les donne lui-même. Et donc, de ce point de vue-là, du point de vue philosophique, il y aurait, même avec ce robot qui a cet indéterminisme et cette capacité à prendre lui-même ses décisions, c'est un robot qui est artiste, hein, en même temps, hein, ce qui, du fait de son indéterminisme, pose tout un tas de questions, et ce qui lui donne d'ailleurs une autonomie, et une autonomie financière, puisqu'il arrive à gagner de l'argent. Mais même avec ça, ça n'est pas un être autonome, et je crois que c'est très très intéressant, et la table ronde, c'est morale humaine et loi d'Asimov. De ce point de vue-là, je trouve qu'on peut relire l'ensemble de ces ouvrages d'Asimov pour voir comment c'est en lien avec des questions de morale humaine, et aussi en quoi c'est en lien avec les questions posées par les robots actuels.
On connaît l'anecdote de Asimov sortant en furie de la projection de 2001, l'Odyssée de l'espace, quand il a vu le robot du vaisseau s'attaquer aux êtres humains et considérant que ça violait ses propres lois. Je comprends la notion d'éthique, je comprends la notion de morale. Comment est-ce qu'on implante cela dans une machine ?
Alors, c'est une question, bien sûr, qui n'est pas encore réglée. D'abord parce que les machines sont quand même bien loin aujourd'hui de ressembler aux robots d'Asimov. Ce que l'on peut essayer de faire, c'est de faire en sorte que quand une machine prend des décisions, qu'elle soit capable de se représenter elle-même ses décisions, et qu'à partir de cela, elle compare les conséquences qui sont celles de chacune de ces décisions. Alors après, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de se demander quels sont les principes éthiques que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour essayer de superviser ces décisions. Alors on peut, bien sûr, reprendre toute la tradition philosophique, c'est-à-dire soit prendre des éthiques conséquentialistes et dire, on va voir quelles sont les conséquences, les moins mauvaises conséquences, soit au contraire prendre des éthiques déontiques, hein, en se disant, il y a des règles, il faut être fidèle à des règles, plus exactement, hein, si je reprends les termes de Kant, il y a des maximes de la volonté, et on doit être capable de choisir ces maximes de la volonté et d'y obéir, et en même temps, il y a des critères d'acceptabilité des ensembles de maximes de la volonté qui sont le fait qu'elles puissent être universalisables. Ça ne veut pas dire que tout le monde puisse avoir les mêmes maximes. Et puis bien sûr, on peut trouver d'autres types de règles éthiques. Alors moi, personnellement, je m'étais intéressé à cette question-là, d'abord pour mieux comprendre l'éthique elle-même, plus d'ailleurs que pour fabriquer des machines qui soient effectivement éthiques, en modélisant avec des outils d'intelligence artificielle un certain nombre de raisonnements éthiques. Alors, application pratique de cela, il y en a pas pour l'instant immédiatement, sauf peut-être une question tout à fait intéressante. Vous savez que parmi les robots, on nous a présenté dans Asimov essentiellement des robots matériels, dont certains sont des robots androïdes, c'est-à-dire qui ressemblent aux hommes. J'ai parti de toute une gamme de robots qui sont des robots à la fois matériels mais différents, comme les robots qui interviennent dans les milieux hostiles ou les robots dans le domaine médical. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les robots virtuels, ceux qui sont sur la toile et qui vont accomplir un certain nombre d'actions. Or, ces robots virtuels détiennent énormément d'informations sur les individus. Et donc, bien sûr, l'une des questions, c'est de savoir quand est-ce qu'ils doivent donner cette information. Par exemple, si vous avez votre carte de santé, il y a des informations dessus. Bon, vous ne voulez pas qu'on donne ces informations à tout le monde. Alors, on peut dire, on va les donner uniquement à des médecins. Mais à ce moment-là, si c'est le médecin de votre compagnie d'assurance, ça, c'est beaucoup plus embêtant, vous voyez. Alors on va dire, on va lui donner uniquement au médecin qui est accrédité. Maintenant, si vous avez un accident au bord de la route, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le médecin soit accrédité, mais vous ne pouvez pas être certain que vous l'avez accrédité vous-même. Voilà, c'est cet ensemble de questions qui posent des problèmes qui sont assez semblables, d'une certaine façon, à ces conflits qu'a mis en scène Asimov. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que la lecture d'Asimov, de ce point de vue-là, est tout à fait passionnante.
Oui, si vous voulez, moi, je pense, et je dans votre sens, M. Ganachia, que pour qu'il y ait éthique, il faut qu'il y ait conscience. Or, pour l'instant, les machines ne sont pas, et je pense qu'elles ne seront pas avant un avenir très, 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 très éloigné, dotées de conscience. Et chez les êtres humains, dans la faible expérience que j'en ai, cette conscience est liée à des expériences. Je suis obligé de revenir là au théâtre de guerre, pas moi qui l'ai introduit. Vous voyez les gens changer. Vous voyez des gens qui, quand ils arrivent tout frais, n'auraient pas fait certaines choses. Et puis, 6 mois après, 1 an après, après avoir vécu un certain nombre de choses, ils font des choses. Et qu'on leur reproche d'ailleurs, bien calé derrière son écran de télévision dans son fauteuil, sans du tout comprendre ou chercher à comprendre le cheminement qui les a amenés là. Ça ne veut pas du tout dire que je les excuse ou que je trouve que ce qu'ils ont éventuellement fait est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la conscience se constitue à partir d'émotions. Dans un théâtre de guerre, pas seulement un théâtre de guerre d'ailleurs, aussi bien dans la vie quotidienne, ces émotions sont emmagasinées dans la mémoire et modifient constamment les aspects éthiques que tel humain, parce que c'est toujours tel humain particulier, est susceptible d'adopter. Alors les robots d'Asimov, ce sont des humains. À tout point de vue. Ce sont des humains qui sont bridés par les trois lois. C'est pourquoi dans un essai déjà ancien, d'inspiration un peu psychanalytique, c'est une autre de mes casquettes, j'en parlais comme d'humains châtrés. Ces trois lois sont destinées à rendre ces humains robotisés socialement très confortables, très agréables, parce qu'ils sont châtrés. Il y a des tas de choses qu'ils ne peuvent pas faire, bien qu'ils aient la conscience, ce que les machines n'ont pas.
Yeah. They are essentially humans in that they have to make decisions. And when you say, when we create robots in the future, we must create them so that they will consider all the consequences of their actions and then choose on that basis, you are asking a great deal because human beings don't consider all of the consequences and then choose on our basis.
Oui, d'où la question et le problème de l'intelligence artificielle.
Oui, alors c'est la raison pour laquelle dans beaucoup de textes et de tables rondes, enfin, etc., bien que je ne sois pas du tout un professionnel de la chose, je récuse le terme d'intelligence artificielle qui a été une trouvaille marketing extraordinaire pour faire cracher de l'argent au gouvernement et aux militaires. Ou alors, si on dit qu'un frigidaire est intelligent parce qu'il maintient une température constante, ou qu'un jeu d'échecs est intelligent parce qu'il est capable de vous battre, moi il me bat à tous les coups, même sur un petit ordinateur de rien du tout, soit. Hein. Mais dans la littérature qui a été développée autour du thème de l'intelligence artificielle, il y a d'ailleurs de plusieurs écoles, enfin, il y a une confusion qui est soigneusement entretenue par certains, je ne dis pas par tous, entre intelligence du type humain, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, et puis intelligence de type purement mécanique, où il y a simplement un mécanisme, qui soit électronique, n'a aucune espèce d'importance ici, qui réagit à un certain nombre de paramètres internes et externes. Finalement, c'est n'importe quel ordinateur ou n'importe quel robot, quelle que soit sa forme, ça n'est qu'une immense collection d'interrupteurs basculés, oui ou non.
Even if you get an intelligence that can go beyond yes-no switches and can reason, that is still an intellectual intelligence. But some psychologists make a distinction between intellectual intelligence, which has to do with reason and applying memory and applying experiences, and emotional intelligence. And emotional intelligence has to do with evaluating alternatives and also with relating to what other human beings want. People with strong emotional intelligence, when they are listening to a conversation, even if the subject is very intellectual, are doing more than reasoning about the subject matter. They are picking up the emotional cues from the other people in the conversation, and on that basis, deducing how they feel about what is being said, and therefore modifying their own behavior in order to respond to the emotions of others. To teach a robot or to program a robot to have emotional intelligence as well as intellectual intelligence may be so difficult as to be impossible.
Alors, première chose, peut-être pour dissiper les malentendus, je suis d'abord d'accord avec vous sur le fait que le terme intelligence artificielle était une trouvaille marketing extraordinaire, mais en même temps, je voudrais préciser un tout petit peu le sens, parce que c'est une trouvaille marketing, mais qui a quand même une signification tout à fait claire dans les esprits des pionniers de l'intelligence artificielle. Comme souvent, bien sûr, ce qui réussit, c'est un terme qui a deux sens. Et dans ce cas-là, il y a deux sens. Il y a un sens qui est celui de fabriquer une intelligence avec des moyens artificiels, mais ce qui était dit lorsque McCarthy, que j'ai évoqué tout à l'heure, a créé cette discipline, était tout autre. Il disait, ben voilà, on va utiliser les ordinateurs, qui sont des machines tout à fait nouvelles, pour décomposer l'intelligence dans ses différents aspects, que ce soit la perception, le langage, la mémoire, et puis chacun de ces aspects, on va essayer de les reconstruire à l'aide d'un ordinateur. Donc le but, ce n'était pas de fabriquer une intelligence artificielle, c'est d'étudier l'intelligence avec les moyens de l'artificiel. Et cette discipline a eu des résultats considérables. Qu'on pense au web, on l'oublie souvent, mais c'est construit sur un modèle de mémoire qui a été introduit par Ted Nelson et qui a été publié d'ailleurs dans l'une des premières conférences d'intelligence artificielle en 1965. Et puis bien sûr, on pourrait poursuivre assez longtemps. Alors, deuxième point sur l'aspect émotionnel, bien sûr, il s'agit de tous les aspects de l'intelligence, de toute la cognition, et il y a des aspects émotionnels qui intéressent énormément les spécialistes d'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a une sous-discipline qui s'appelle Affective Computing, qui essaye de modéliser les perceptions, et c'est effectivement, on le sait, une dimension tout à fait importante si on veut arriver à comprendre ce qui se passe dans notre cognition. Elle n'est pas simplement calcul. D'ailleurs, on l'a vu au début, on a fait des machines qui jouaient au jeu d'échecs, qui essayaient de démontrer automatiquement des théorèmes, et puis ensuite on a essayé d'aller vers des machines qui accomplissaient des tâches totalement différentes, jusqu'à par exemple l'ordinateur Watson, dont vous avez entendu parler il y a à peu près 2 ans, qui était capable de comprendre la langue naturelle et ensuite de répondre à des questions qui étaient souvent formulées de façon un tout petit peu délicate en explorant une base de données.
C'est le terme « comprendre » que je récuse, Il est capable de réagir à la langue naturelle en des termes qui sont spectaculaires, mais il n'y a personne qui comprend derrière.
Si on prend comprendre au sens étymologique, qui est de se saisir, c'est exactement ce que fait l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il est capable de traduire le signal vocal dans un ensemble de symboles logiques qu'il va utiliser pour trouver de l'information. Donc il va se saisir, effectivement.
Vous connaissez le.
Mais effectivement, il y a une opposition entre ce qui est la sémantique, au sens fort, et puis ce dont on parle avec les ordinateurs, qui est effectivement de la syntaxe, c'est-à-dire des manipulations d'expression de symboles. Ce qu'on appelle le calcul, ça vient des cailloux. D'ailleurs, quand on dit qu'on a un calcul dans le rein, et ça ne fait que du calcul. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Et vous connaissez l'histoire de la chambre chinoise, je crois que c'est de John Searle. Cet essai qui me fait mourir de rire chaque fois que je le relis, et ça m'arrive régulièrement, de l'ami Turing sur une machine peut-elle penser. Bon, c'est évidemment une plaisanterie de la part de Turing. C'est une énorme plaisanterie. Je le résume en 2 mots. Il y a un moyen de communication, il emploie un téléx, parce que c'était ce qui existait à l'époque, qui commence par mettre un observateur en communication avec un homme ou une femme. Il peut, ce qui est important, ce choix entre un homme et une femme, puisque comme on le sait, Turing était homosexuel. Alors, l'observateur peut poser toutes les questions qu'il voudra, toujours par téléx, à l'un ou à l'autre, et il doit décider de s'il a en face de lui un homme ou une femme. Enfin, la seule question qu'il ne peut pas poser, c'est êtes-vous un homme ? Mais il peut la poser, parce que l'autre peut tout à fait mentir. Bon, ensuite, on substitue à l'un des deux une machine, et là aussi, l'observateur peut poser toutes les questions qu'il voudra, et est-ce qu'il peut faire la distinction entre quelqu'un qui lui répond qui est humain et la machine ? Bon, ça ne prouve rien. On peut tout à fait arriver à convaincre quelqu'un qui ne peut pas établir la différence, mais ça ne lui dit rien de qui il a de l'autre côté du moyen de communication. Il y a quelque chose qui me semble très lié, au-delà de l'émotionnel, enfin au travers de l'émotionnel, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, qui sera certainement très difficile à modéliser, c'est ce qu'on appelle l'empathie, qui caractérise les êtres humains, mais pas seulement les êtres humains. La plupart des mammifères supérieurs, un chat a une certaine capacité d'empathie. Comment ? Alors, l'empathie, c'est la capacité de reconstruire en soi un modèle du mode de penser, du mode de sentir, du mode de réagir de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est très important pour les psychologues, parce qu'il y a des personnes, des êtres humains qui ne ressentent aucune empathie. Et il y a des gens encore beaucoup plus graves, qui sont des cas encore beaucoup plus graves, qui ressentent très bien l'empathie, mais qui n'en tiennent aucun compte. C'est le cas en ce qui concerne les grands pervers. Ils ont une très grande capacité à manipuler d'autres êtres humains, parce qu'ils sentent très très bien, ils se représentent très très bien comment l'autre fonctionne, souvent beaucoup mieux que l'autre ne le fait, mais ça leur est complètement indifférent. C'est comme si l'autre était un insecte ou une machine, au moins qu'un insecte. Donc là, il y a un problème important pour le psychologue, et encore plus difficile pour l'intelligence artificielle.
Mais peut-être, je crois que là encore, il convient de préciser un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de faire une machine qui perçoive des émotions. Donc la question de l'empathie ne se pose pas dans ces termes-là. Nous n'allons pas avoir une machine qui va être empathique. Dit autrement, on peut distinguer différents types de conscience. Il y a une conscience qui est simplement environnementale. Plus exactement, quand une machine se comporte comme un être conscient, on va lui prêter une conscience. Et puis il y a une autre conscience, qui est une conscience phénoménologique, qui fait qu'une machine va percevoir les choses. Pour l'instant, on est extrêmement loin, avec les techniques qui sont employées actuellement pour fabriquer les machines, de fabriquer des machines qui ont une conscience phénoménologique. C'est de l'ordre de l'utopie la plus totale. D'accord. En revanche, que l'on ait des machines qui suscitent en nous des émotions, qui suscitent en nous de l'empathie, alors ça c'est tout à fait vrai. Et il y a tout un pan de la robotique qui s'intéresse à cela, c'est-à-dire fabriquer ce qu'on appelle des robots de compagnie qui vont mimer les expressions d'une émotion, par exemple un chien ou un tigre qu'on appelle affectif, parce que lorsqu'on va le caresser, il va se comporter comme le ferait un tigre, ou enfin, un tigre affectif, je ne sais pas ce que ce serait, mais comme le serait un chien. Et donc, bien sûr, ça fait partie des travaux qui sont conduits actuellement et qui conduisent, bien sûr, à s'intéresser à la psychologie des émotions et à la façon dont on peut la représenter. Mais insistons bien là-dessus, ça n'est pas une machine qui éprouve des émotions, c'est essayer de fabriquer des machines qui suscitent en nous un certain nombre d'émotions.
Yet this is where science fiction, I think, fails, because we fail to distinguish between artificial intelligence such as you are talking about it and artificial intelligence such as Asimov's robots, which are essentially human beings, as you say. And there's so much exciting work being done in real artificial intelligence that I wonder why more science fiction does not look at that instead of looking at these pseudo-human beings that we haven't really got and probably never will get.
Dans un des textes tardifs de ces histoires de robots, deux robots assez exceptionnels en viennent à créer une quatrième loi. Ce qui pose déjà des questions, parce qu'on passe de lois qui étaient implantées de façon matérielle à des lois qui seraient créées, cette fois de façon logicielle, par la machine elle-même. Donc une quatrième loi, dite loi zéro, qui veut qu'aucun robot ne pourrait atteindre à la sauvegarde de l'humanité, même pour protéger un seul être humain.
Donc là, avec la loi zéro, peut-être que le robot pourrait résoudre le problème du wagonnet et de l'embranchement diabolique. Le robot doit protéger l'humanité,
oui.
Même au prix d'un être humain.
Oui, mais là, enfin, je crois qu'elle est très, très, très intéressante, cette loi. D'abord, elle vient tout à la fin, hein, et elle nous dit que, effectivement, au début, un robot ne peut pas sacrifier un homme, mais si l'intérêt de l'humanité est supérieur à celui d'un individu, à ce moment-là, bien sûr, il doit défendre l'intérêt de l'humanité. Mais ça n'a pas été tellement développé. Enfin, je veux dire, c'est une question tout à fait intéressante. C'est une question tout à fait ancienne. Alors, peut-être que là, on peut se prendre à rêver aussi. Mais il y a d'autres nouvelles de science-fiction où, d'une certaine façon, les robots, en eux-mêmes, parce qu'ils sont des robots, parce qu'ils survivent à l'espèce humaine, sont l'avenir de l'humanité. Hein. Et je pense par exemple au film AI, Artificial Intelligence, où à la fin, hein, on voit ce robot qui est un robot androïde à l'image d'un enfant, qui est dans la glace, et ensuite des grandes machines, hein, et qui retrouve ça, et qui se dit, mais c'est peut-être notre grand ancêtre. Hein, et on voit bien sûr que cette humanité est d'une certaine façon préservée grâce aux robots. Et donc, de ce point de vue-là, les robots seraient peut-être l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas tout à fait d'ailleurs ce qui est dit par Asimov, mais ce serait effectivement une façon de poursuivre cette rêverie.
Dans une de mes nouvelles, il y a déjà quelques années, j'imagine sur la Terre qu'il ne reste plus que des robots. L'humanité a disparu. On ne sait pas si elle est partie vers les étoiles ou si ça purement et simplement elle s'est auto-exterminée. Enfin, elle a disparu. Il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus que des robots. Mais pour que la société robotique, qui est très asimovienne d'ailleurs, ou à la CIMAC, pour que la société robotique fonctionne, il faut qu'un des robots, alors qu'ils sont virtuellement immortels, endosse le rôle de l'humain. La nouvelle s'appelle d'ailleurs « Le rôle de l'humain ». Et alors... c'est le maître de tous les robots, mais il y a un hic, c'est qu'il peut vivre 100 ans et qu'au bout de 100 ans, il est détruit.
It's fun to play with themes like that. I wrote a story called Savior, in which a spaceship lands on Earth and it's completely impenetrable and nothing comes out. It just looks like a solid egg and we can't get into it, we can't bomb it, we can't do anything. It just sits there. And it sits there for hundreds of years. And we're not sure what it's doing. But in the meantime, humanity goes forward. It does this, it does that. It goes backward, it goes forward. And then humanity invents an artificial intelligence. And it is a real artificial intelligence in a quantum computer. And we're using it for our own ends, almost enslaving it. Finally, the spaceship comes to life. It's there to rescue any artificial intelligence as we develop and take it back somewhere where it won't be used as a slave of humans. And that's what it's there for. It's more interested in its own kind than in us.
Bien, il nous reste quelques instants. Est-ce que par hasard, il y en aurait parmi vous quelques-uns qui auraient des questions?
Bonjour. On a parlé donc de beaucoup de choses du coup donc pendant cette table ronde. Vous avez parlé donc de l'usage militaire, etc., de tout ce qui est la conscience par rapport au robot, et donc notamment aux notions d'empathie. Je me demandais du coup si, à votre avis, vous pensiez qu'on pourrait appliquer donc les lois robotiques et donc même la robotique en elle-même au domaine de la justice. Donc par exemple au sens où ils pourraient traiter donc des cas de meurtre, etc., enfin d'affaires graves, et donc du destin donc d'autres êtres humains avec leurs décisions, au sens d'être les juges de l'humanité en quelque sorte.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de tentatives pour utiliser les ordinateurs dans le domaine de la justice, que ce soit pour essayer de stocker l'ensemble des cas qui ont été étudiés dans le passé, ou de modéliser les lois, et éventuellement d'ailleurs d'appliquer ces lois pour déterminer le type d'open. Alors ça pose bien évidemment tout un tas de questions, ce qui fait que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui d'avoir une justice entièrement informatique, mais enfin c'est quand même de plus en plus présent. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce domaine-là. Il y a même un congrès, juste, il y a même un congrès qui s'appelle Intelligence artificielle et droit. Laws and Artificial Intelligence.
Absolument. Bon, quand j'étais encore à la Caisse des dépôts, nous avons justement contribué à financer une gigantesque base de données juridique qui d'ailleurs a rencontré beaucoup de difficultés. Et on s'est posé à ce moment-là la question purement théorique, hein, je le dis tout de suite, de est-ce qu'on peut imaginer une justice automatique, puisqu'après tout, la justice, enfin le droit est supposé être rationnel, construit, etc. Il y a des choix de départ qui sont des axiomes, puis après tout en découle. Et on s'aperçoit très très vite que ça ne peut pas marcher parce que tout est cas particulier. Alors ça ne veut pas dire que tel tribunal juge suprêmement bien tel cas particulier et qu'un autre tribunal n'en déciderait pas autrement, mais il n'y a finalement que des cas particuliers. C'est seulement dans des cas extrêmement simples, et d'ailleurs qui sont parfois contestables, comme, je sais pas moi, les dépassements de vitesse sur la route, où on peut automatiser avec les résultats qu'on connaît. Mais dès qu'il s'agit de problèmes difficiles de droit, on s'aperçoit que ça n'obéit pas à une logique inflexible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou alors on tombe sur les paradoxes de Gödel, c'est-à-dire on est obligé de réinjecter sans fin, à l'infini, de nouveaux axiomes pour rendre le système cohérent.
Une dernière question peut-être ?
Bonjour. Il y a un mot qui vient d'être prononcé qui est pour moi très important, c'est celui de rationalité, finalement, parce que l'une des principales caractéristiques de l'être humain, c'est finalement qu'il n'est pas rationnel. Or, le robot tel qu'il existe et tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui est un être finalement suprarationnel. Donc finalement, est-ce que les lois de la robotique ne sont pas là pour contrer cette trop grande rationalité, justement, qui ferait par exemple, un robot justicier pourrait envoyer des innocents en prison ou être implacable. Donc, c'est finalement pour moi la grande différence, c'est cette rationalité. Le robot fonctionne avec une base de données et des calculs finalement, alors que l'homme, il y a tout ce qui tient presque de la parapsychologie, les intuitions, on peut dire le sixième sens, enfin, tout ce genre de choses, ce qu'un robot ne peut pas avoir finalement.
Alors, peut-être faudrait-il préciser que l'intelligence artificielle, dans ses principes, ne repose pas uniquement sur un calcul rationnel. Hein. Herbert Simon, qui est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, a introduit la notion de rationalité limitée. De même, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant de logique non monotone, c'est le fait qu'on peut avoir deux règles qui sont en conflit et ensuite avoir un arbitrage automatique entre ces conflits. Donc toute la difficulté qui a été celle qu'ont rencontré les chercheurs en intelligence artificielle, c'est justement essayer d'implanter ces outils qui ne sont pas justement simplement un calcul mathématique parfait, puisque on ne pourrait pas, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne pourrait pas, bien sûr, prendre une décision quelconque si on devait faire un calcul mathématique parfait, ne serait-ce que parce que les calculs seraient beaucoup trop longs, mais pas seulement pour ça, parce que ça échapperait souvent, les résultats seraient tout à fait absurdes.
La question de savoir, on ne peut pas dire que l'être humain n'est pas rationnel. D'abord, il peut être rationnel. Il l'est fort heureusement souvent, sinon nous ne serions pas là, il n'y aurait pas de micro. Mais surtout, ça pose le problème extraordinairement difficile, et là c'est vers le philosophe que je me tourne, de dire ce que c'est que la rationalité.
Je crois que ça ferait un joli mot de la fin.
Oui,
en vous remerciant tous. Et en vous souhaitant une bonne après-midi aux Utopiales.